Bonjour, bonsoir, selon de quelle partie du monde vous nous écoutez. Qui vous parle, Éric Domergue, vous donne la bienvenue à un nouveau programme en français de RAE l'Argentine vers le monde. Avec la production de Silvana Avellaneda, Julián Cortés et Pedro Araos, responsables du web, et sous la direction de Adrián Corol, nous vous apportons les nouvelles et les rubriques habituelles sur le pays et la région. Maintenant, place à l'actualité préparée par Fernando Farias. En pleine renégociation de 44 milliards de dollars du prêt du Fonds monétaire international en 2018 au gouvernement du libéral Mauricio Macri, le nouveau président Javier Milei vient d'accorder un nouveau déboursement de la part du FMI pour soutenir le plan d'ajustement en cours dans le pays.
Direction l'Argentine, où le gouvernement a conclu un nouvel accord avec le Fonds monétaire international, accord qui porte sur 4,7 milliards de dollars.
Oui, il s'agit, explique la Nación, d'ouvrir le chemin à ce nouveau versement à l'Argentine pour appuyer le plan du nouveau président Javier Milei destiné à stabiliser l'économie. Un plan dont le Fonds, en annonçant l'accord, a fait l'éloge tout en critiquant durement l'action du précédent président Alberto Fernández. Clarín voit la somme comme un appui décisif au plan d'ajustement du président Milei, mais estime que l'Argentine devra encore faire beaucoup avant de regagner la confiance du FMI.
Parlant d'Argentine, RFI analyse le rôle de la sœur de Javier Milei, Karine, considérée comme le principal soutien du nouveau président.
Hoy comienza una nueva era en Argentina.
Javier Milei accédait à la présidence en Argentine. Depuis le 10 décembre, le nouveau chef de l'État ultralibéral a fait ce qu'il avait promis de faire. Près de 1000 propositions de réformes pour libéraliser l'économie et le code du travail, pour privatiser des secteurs publics, pour limiter des éventuels mouvements de contestation. Un choc d'austérité qui n'est évidemment pas du goût de tout le monde. La justice s'est déjà saisie de plusieurs plaintes contre les réformes. Les syndicats, eux, appellent à une grande mobilisation nationale à la fin du mois. Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour.
On va se pencher avec vous aujourd'hui sur une femme qui semble occuper depuis un mois le rôle de première dame d'Argentine. Sauf qu'il ne s'agit pas de l'épouse de Javier Milei, mais de sa sœur.
Tout à fait. Karina Milei, 51 ans, est la sœur cadette de son désormais président de frère. C'est à ses côtés que Javier Milei a fêté sa victoire électorale, qu'il s'est rendu au Congrès pour prêter serment. C'est accompagné de Karina car Javier Milei a traversé la foule de sympathisants en décapotable dans les rues de Buenos Aires et qu'il a salué ses électeurs depuis le balcon du palais présidentiel. Où qu'il soit, la crinière blonde de sa sœur n'est jamais loin, explique Juan Luis González, auteur de El Loco, le fou, une biographie non autorisée sur Javier Milei. Ce journaliste argentin souligne que Karina est l'ombre de son frère.
Son importance dans la vie de Javier Milei remonte à leur enfance, une époque extrêmement difficile. Javier a subi la violence et les brimades de son père. Il n'avait pas d'amis. Karina est la seule personne qui l'a accompagné durant toute sa vie. Elle est d'une solidarité sans faille. Et c'est de là que Karina puise maintenant son capital politique. Elle détient le quasi-monopole sur de nombreux aspects de la vie de son frère. En prime, elle joue un rôle très important dans le côté mystique de Javier Milei. Le président dit d'ailleurs de sa sœur qu'elle est l'élue de Dieu.
Comme dans cet entretien que Javier Milei a accordé il y a quelques semaines à la chaîne câblée argentine America 24.
Moïse était un grand leader, mais il n'était pas doué pour faire passer le message de Dieu. Dieu a donc envoyé Aaron comme prédicateur. Eh bien, Karina et Moïse, et moi, je ne suis que le messager.
Karina occupe une place centrale, notamment depuis la mort en 2017 de Conan, le chien de Javier, que celui-ci considérait comme son fils. Karina a pris des cours pour devenir médium et depuis, elle assure la communication entre Javier Milei et son chien décédé.
Mais au-delà du penchant ésotérique des Milei, Karina occupe aussi des fonctions qui sont beaucoup plus terre-à-terre.
Oui, tout à fait, Anne. Ces dernières années, elle a fait plusieurs petits boulots. C'est au moment où son grand frère a entamé son ascension, d'abord médiatique comme économiste très demandé sur les plateaux de télévision, puis politique avec son élection d'abord comme députée en 2021, que Karina a pu mettre à profit ses études de marketing et de relations publiques. Elle est l'architecte de ses campagnes électorales, sans pour autant jamais parler en public. Quiconque veut approcher son frère doit passer par elle. Javier Milei l'appelle « el jefe », donc non pas « la », mais bien le chef.
Pas étonnant donc qu'à peine arrivé au pouvoir, le nouveau chef de l'État l'ait nommé au poste de secrétaire général de la présidence.
Et la presse et l'opposition ont immédiatement crié au scandale puisque, comme l'explique le chercheur en sciences politiques David Campello, ce poste était jusqu'à là
interdit aux membres de la famille du président. Millet a dû signer un premier décret l'autorisant à nommer sa sœur au secrétariat général de la présidence.
La nouvelle fonction de Karina Milei est très protocolaire, estime le journaliste Juan Luis González.
Accompagner le président, s'occuper des questions administratives quotidiennes, mais au-delà de ça, elle fait la même chose que ce qu'elle a fait jusqu'à présent au sein du parti La Libertad Avanza, être la gardienne de Milei. Elle gère son entourage, décide qui entre ou non au gouvernement. Elle veille sur l'image et le discours du président. À l'exception du domaine de prédilection de son frère, l'économie, elle a un regard sur absolument tout. Pourtant, cela ne fait pas d'elle le cerveau politique de la nouvelle équipe au pouvoir. Elle n'a tout simplement pas les connaissances requises. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore 2 ans, elle vendait des gâteaux faits maison sur Instagram et parlait aux animaux morts.
Quoi qu'il en soit, Karina est la seule en qui Javier Milei ait confiance, ce qui fait d'elle, de facto, la personne la plus influente de son gouvernement.
Le modèle du président Nayib Bukele au Salvador semble efficace pour la sécurité, mais néfaste pour les libertés, selon l'envoyé spécial de RFI, qui constate que, sous couvert de la lutte contre les gangs, les forces de l'ordre arrêtent régulièrement des défenseurs des droits de l'homme.
Beaucoup de voix dans la région vantent les résultats du modèle Bukele, du régime d'exception qui est en place dans ce pays depuis presque 2 ans. Nayib Bukele, celui qui s'autoproclame dictateur, a imposé des mesures brutales pour lutter contre le crime organisé, au détriment de nombreuses libertés. Le système actuel étouffe en fait toutes les voix dissidentes, celles des défenseurs des droits de l'homme ou encore de l'environnement, comme on peut l'entendre dans ce reportage de notre envoyée spéciale Gwendolina Duval. C'est notre dossier du jour.
Dans la région de Cabañas, Vidalina Morales est une figure importante du mouvement contre l'extraction minière au Salvador. Elle préside l'association ADES engagée pour la défense de l'environnement et les droits de l'homme.
Notre grande inquiétude, c'est qu'ils veulent mettre un coup d'arrêt à la lutte sociale dans le département de Cabañas et aussi mettre un coup d'arrêt à la lutte contre l'exploitation minière.
Début 2023, 5 membres de l'association sont arrêtés et emprisonnés arbitrairement.
Nous avons beaucoup lutté pour que nos camarades puissent être libérés. Mais dans ce contexte de régime d'exception, c'est dans la peur que nous le faisons, dans la terreur. Parce que maintenant, le gouvernement et la police capturent n'importe qui. Ils vous accusent d'être un journaliste indépendant ou un membre d'un gang et ils vous emmènent en prison.
Elle raconte que peu après, son fils est également arrêté pour la même raison. Sans preuve, il est libéré, mais pour Vidalina Morales, il s'agit d'un message d'intimidation.
C'est l'épreuve la plus dure que j'ai vécue, et j'en ai vécu des moments difficiles dans cette lutte. Avec la capture de mon fils, ils m'ont touché là où ça fait le plus mal, là où c'est le plus difficile. Mais en même temps, je ressens de la force. Cette colère intérieure nous donne de l'énergie pour affronter les moments difficiles.
L'état d'exception a fait plus de 75 000 prisonniers dont l'immense majorité n'a pas été jugée.
Même si le gouvernement se destine à arrêter les membres des gangs, nous avons constaté qu'il y a plusieurs détenus qui ont appartenu à des coopératives ou qui travaillent dans le domaine de la défense de l'environnement, en particulier des acteurs locaux ou des personnes impliquées dans des communautés.
Zaira Navas est avocate au sein de Cristosal, la principale association salvadorienne de protection des droits de l'homme qui dénonce les nombreuses violations du régime.
Nous avons vu que n'importe qui peut être arrêté pour n'importe quel délit, puis ensuite être accusé de rassemblement illicite. C'est un délit dont la caractérisation pénale est très vague. Ça désigne 2 ou 3 personnes qui se regroupent pour commettre un délit. Donc imaginons 3 personnes qui parlent ensemble, ils peuvent dire qu'elles conspirent contre le gouvernement. Ça devient un rassemblement illicite et donc un régime d'exception peut s'appliquer. C'est très difficile.
C'est extrêmement délicat.
Critiquer le régime, c'est désormais devenir une cible. Les associations, les journalistes et les organisations internationales sont visées, selon Ana Maria Daldon, experte à Washington de l'Amérique centrale pour l'ONG WOLA.
Dans sa stratégie gouvernementale pour diminuer la violence, Nayib Bukele a négocié avec les gangs et les autres groupes criminels. Toutes les personnes qui critiquent cette stratégie se retrouvent victimes des campagnes de désinformation massives qui existent au Salvador. Même notre ONG, Wola, en a été victime. Ils ont des trolls sur les réseaux sociaux et n'importe quelle voix dissidente est attaquée en permanence.
L'arrivée au pouvoir de Bernardo Arévalo est un tournant pour le Guatemala, selon Garance Robert, chercheuse doctorante à l'Université de Montréal au Canada. Le nouveau président du pays de l'Amérique centrale a pris le pouvoir le 14 janvier après avoir dû faire face à d'innombrables pressions politiques et judiciaires depuis son triomphe électoral il y a plus de 6 mois. Une interview de RFI.
En nombre del Congreso de la República y del pueblo de Guatemala aquí representado, queda usted legal, legítima y solemnemente en posesión del cargo de presidente de la República de Guatemala para el periodo constitucional 2020.
Bernardo Arévalo, formellement investi président du Guatemala. Et il en aura fallu du temps pour arriver là. 9 heures de retard, le nouveau président a prêté serment au beau milieu de la nuit. Bernardo Arévalo a de nombreux, très nombreux adversaires politiques, Gwendolina Duval, mais il ne dévie pas de sa ligne, ni de ses promesses de campagne.
C'est en pleine nuit que Bernardo Arévalo est finalement devenu président du Guatemala après une journée interminable d'incertitudes. Dans son tout premier discours, il promet de mettre fin au règne de l'élite corrompue qui a fait son possible pour l'empêcher jusqu'à la dernière minute de prendre sa fonction.
Pour des milliers de personnes, ces mois ont laissé craindre un retour de la dictature au Guatemala. Mais le peuple a démontré sa sagesse et les institutions fondamentales comme le tribunal électoral ou la Cour constitutionnelle ont protégé le désir souverain des Guatémaltèques de vivre en démocratie.
Pendant des heures, son investiture a été retardée par la difficile formation du nouveau Congrès dans un climat très tendu.
Il ne respecte pas la volonté du peuple.
Élu pour un mandat de 4 ans, Arévalo a annoncé un programme social.
Nous pouvons construire des politiques plus inclusives et efficaces pour l'ensemble de la population.
Dans les rues de la capitale guatémaltèque, des milliers de personnes sont venues soutenir leur nouveau président. Gwendolina Duval, Mexico, RFI.
Et pour parler de cette investiture mouvementée et surtout de ce qui attend maintenant le nouveau président du Guatemala, nous sommes en ligne avec Garance Robert. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse doctorante en sciences politiques à l'Université de Montréal au Canada et vous travaillez particulièrement sur les droits de l'homme en Amérique centrale, donc au Guatemala. Ça semble un peu irréel cette investiture en pleine nuit et il m'a semblé que c'était à la fois la continuité du harcèlement que subit Bernardo Arévalo depuis qu'il a été élu et peut-être aussi une forme d'avertissement pour montrer la capacité de nuisance de ceux qu'il veut combattre.
Oui, tout à fait. Ce qui s'est passé ces dernières heures est dans la droite ligne de ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est-à-dire depuis le début du premier tour et le score surprise de Bernardo Arévalo à ce moment-là. Et donc finalement, on voit que ses adversaires n'ont pas baissé les bras jusqu'au dernier moment et que ses adversaires sont toujours à des postes importants, que ce soit au sein du Congrès, que ce soit au sein des institutions, et que ça va prendre du temps, de l'énergie et beaucoup de stratégie politique, probablement beaucoup de diplomatie et beaucoup d'intelligence, en fait, pour parvenir à contourner ces obstacles.
Alors, parmi ses adversaires, parmi les personnes qui lui ont mené la vie dure, il y a notamment la procureure générale, celle qui a mené l'offensive judiciaire contre lui et contre son parti. Bernardo Arévalo a fait savoir qu'il la convoquerait bientôt pour la pousser à la démission. Mm-hmm. Quelle peut être, selon vous, sa réaction à elle et plus généralement de ce système qui est vraiment complètement gangréné par l'affairisme et par la corruption ?
Oui, tout à fait. C'est un système qui est complètement coopté. Mais finalement, je pense que ce qu'a montré le dernier processus électoral et cette victoire arrachée, certes, mais victoire tout de même, c'est qu'il demeure au sein de ces institutions, au sein de cet État, des personnes qui sont prêtes à faire basculer finalement le système en faveur de davantage de transparence, d'une lutte contre la corruption, etc. L'avantage de Bernardo Arévalo, à ma connaissance, c'est qu'il n'a aucune casserole, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il est mouillé dans aucune affaire de corruption. Et normalement, c'est le levier dont se servent ce genre de personnages pour rester en place et pour parvenir à leur fin. Si effectivement lui et son équipe n'ont rien à se reprocher, Consuelo Porras n'aura aucune monnaie d'échange finalement pour rester en poste et donc elle sera probablement destituée. Et puis ce qui l'attend probablement, c'est un exil ou des procédures judiciaires puisqu'elle est coupable de toutes sortes de malversations.
Donc on verra ce qui est mené d'une manière plus large aussi pour essayer de lutter contre la corruption comme il l'a promis. Malgré tous les bâtons qu'on lui aura mis dans les roues, donc il est devenu hier le nouveau président. La presse y revient largement, Stéphanie Schüller, vous l'avez lu pour nous. Et pour la plupart des journaux, son arrivée au pouvoir marque bel et bien une page qui se tourne au Guatemala.
Oui, à l'instar du quotidien La Hora qui écrit aujourd'hui, avec l'arrivée du nouveau gouvernement s'ouvre une immense fenêtre pour entamer la reconfiguration de l'État en éradiquant les organisations criminelles. Mais pour être honnête et sincère, poursuit l'éditorialiste, ce changement ne dépend pas seulement de ce que Bernardo Arévalo peut ou va faire, mais avant tout de notre capacité en tant que société à s'unir pour dépasser un système corrompu qui contrôle la totalité de nos institutions, nos entreprises et même notre vivre ensemble. La tâche sera tout sauf facile, renchérit de son côté La Prensa Libre. Le journal lance un appel à ceux qui s'opposent au nouveau président et écrit: il est important de dire à tous les partis politiques que la campagne électorale est terminée depuis longtemps et que la priorité est désormais le bien du Guatemala et des Guatémaltèques.
Quel est votre sentiment sur ce point, Garance Robert? Est-ce que d'autres partis politiques peuvent suivre?
Oui, alors je pense que oui, c'est définitivement un tournant. Quelle ampleur il va avoir, ça va dépendre de la marge de manœuvre, ça va dépendre, comme je vous le disais, des stratégies qui seront employées. Effectivement, c'est presque un miracle qu'il arrive là où il est, mais il va devoir continuer à composer avec... Des obstacles. Ceci étant dit, le gros avantage de Bernardo Arévalo, c'est premièrement le soutien populaire et deuxièmement le soutien de la communauté internationale. Et donc, il est très clair qu'il a les États-Unis, qu'il a l'Europe derrière lui.
Et l'Europe avait même envoyé son chef de la diplomatie, ce qui n'est pas si commun.
Ce qui n'est pas anodin. Josep Borrell a assisté à l'investiture et puis s'était réuni avec lui précédemment, je crois, le jour même ou la veille, afin de lui montrer son soutien, etc. Et donc, on voit bien que, d'une part, diplomatiquement, mais aussi symboliquement, ce sont des choses très importantes qui sont en rupture immense avec les derniers gouvernements élus au Guatemala depuis une dizaine d'années.
Alors Bernardo Arévalo a aussi bénéficié de soutien à l'intérieur du pays. On a vu par exemple avant l'investiture hier des représentants autochtones former de véritables cordons de sécurité dans les rues pour permettre la tenue de la cérémonie d'investiture. Mmh. Eux ont expliqué ne pas protéger une personne mais l'état de droit. Est-ce que ça veut quand même dire que Bernardo Arévalo leur est un peu redevable désormais?
Alors c'est une question compliquée et là ça peut être quelque chose qui peut le fragiliser davantage sur sa gauche. Puisque effectivement, c'est sa victoire est le symbole de la préservation d'une forme d'état de droit, même s'il y a beaucoup d'organisations qui refusent en fait cette appellation et qui considèrent que l'état de droit n'existe pas au Guatemala, qu'il n'a jamais existé du fait de la discrimination et d'un système raciste finalement dans son essence. Ceci étant dit, il y a aussi énormément d'organisations qui ont soutenu Bernardo Arévalo, comme il le disait, non pas pour sa personne, mais par respect du processus électoral et des institutions. Et malheureusement, les ministres et le cabinet ministériel nommé et choisi par Arévalo et son équipe n'est pas très représentatif des peuples autochtones. Et donc là, vous avez peut-être un sujet de désaccord qui pourrait éventuellement mener à une frustration de la part de ces organisations qui l'ont soutenu tout au long du processus électoral et qui risque d'être déçu. Ceci étant dit, on peut aussi interpréter ça comme une stratégie pour le moment montrer un peu patte blanche auprès des élites et puis peut-être qu'il y aura davantage d'ouverture dans les mois qui vont suivre une fois que son pouvoir sera un peu mieux installé, qu'au sein des institutions il y aura des personnes plus de confiance, etc. Ça c'est l'avenir qui nous le dira.
Sachant qu'il aura besoin évidemment d'alliances notamment au Parlement puisque le nouveau président ne dispose actuellement que de 23 députés sur 160.
Chiqueg akolohel retinamit, kikemonki, baruach olef.
Toujours au Guatemala, la chanteuse Sara Kuruchit déclare pour RFI que les communautés autochtones attendent beaucoup du nouveau président Bernardo Arévalo, qu'elles ont soutenu pendant la campagne électorale.
Je vous propose à présent un entretien avec une voix, une figure du Guatemala, la célèbre chanteuse Sara Kuruchit. Elle est aussi militante, représentante de la communauté Kaqchikel, et elle revient justement avec Achim Lippold sur le rôle des autochtones dans l'accession au pouvoir du nouveau président Bernardo Arévalo.
Sara Kuruchit, bonjour.
Hola.
Depuis l'élection surprise de Bernardo Arévalo, la communauté autochtone de Guatemala se mobilise contre les tentatives de faire annuler ce résultat. Vous êtes chanteuse, une chanteuse célèbre Guatemala et militante autochtone. Dites-nous, comment cette mobilisation a-t-elle commencé et pourquoi ?
La mobilisation a débuté le 2 octobre dernier. Au début, il y avait les peuples autochtones de 48 cantons de Tonikapan, mais très vite, d'autres communautés autochtones se sont jointes à ce mouvement. L'objectif principal, et je tiens à le préciser, c'était de défendre nos droits et notamment le respect de notre droit de vote. Donc les peuples indigènes ne se sont pas spécialement mobilisés en faveur du président élu Bernardo Arévalo, mais pour défendre leurs droits à la participation d'une élection, au respect de leur choix électoral et en fait, tout simplement pour défendre le droit à la démocratie.
Et en quoi l'élection de Bernardo Arévalo était-elle importante pour vous ?
De nombreuses personnes se sont identifiées au programme de son parti. Il y a un grand espoir placé en Bernardo Arévalo, mais je dois vous avouer que le cabinet qu'il a choisi a suscité aussi une grande déception chez beaucoup d'autochtones, parce qu'il n'y a qu'un seul autochtone dans tout le cabinet. Et il y avait de la part de la communauté autochtone beaucoup d'attentes par rapport à la composition de ce cabinet. Il ne faut pas oublier que c'est grâce à la lutte des peuples autochtones que nous sommes arrivés jusqu'à l'investiture de ce président.
Gracias a la lucha que han tenido los pueblos originarios, los pueblos indígenas.
Sara Kuruchit, qu'est-ce que vous attendez précisément de la présidence de Bernardo Arévalo?
Yo considero que una de las prioridades es que asuma.
J'estime qu'il a une responsabilité envers les autochtones. Il doit respecter l'organisation de la communauté et les décisions prises au niveau local. Les autochtones ont créé un système d'organisation très élaboré qui inclut tout le monde. On attend du nouveau président qu'il respecte ces traditions. Cela devrait être l'une de ses priorités. Il doit aussi agir en faveur d'autres secteurs sociaux qui, à l'instar des autochtones, ont été historiquement exclus des décisions politiques. Il faut combattre les pratiques mafieuses qui gangrènent nos institutions politiques. Ce sont ces pratiques qui bloquent les processus démocratiques en faveur de la liberté et de la dignité de la population guatémaltèque.
Para toda la población guatemalteca.
On le disait, votre communauté est mobilisée depuis plus de 3 mois. Quelle est la suite de ce mouvement ?
Se va continuar a ser una presión desde los pueblos indígenas.
Les peuples autochtones vont continuer à exercer une pression sur le gouvernement pour qu'il assume justement ses responsabilités envers nous. Je le répète car c'est important, l'investiture, la prise de fonction du nouveau président a pu se faire grâce à la mobilisation des peuples indigènes. Le gouvernement a une énorme dette envers nous. On va donc accompagner l'action du gouvernement, le soutenir bien sûr, mais aussi veiller à ce qu'il remplisse ses obligations et ses responsabilités envers les peuples autochtones.
Hacer que estas obligaciones y responsabilidades se puedan cumplir.
Vous avez dit que la présidence de Bernardo Arévalo suscitait beaucoup d'attentes. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste qu'il pourra réaliser ses promesses, car une grande partie de l'élite conservatrice du pays continue à se mobiliser contre lui?
J'ai de l'espoir. Très honnêtement, je m'accroche à l'espoir d'un changement. Un changement digne de ce nom pour notre génération, pour celles à venir, mais aussi en l'honneur de celles qui nous ont précédées. Bien sûr, il y a de quoi se sentir découragé, étant donné l'agressivité des gens, comme la procureure générale Consuelo Porras ou l'ancien président Alejandro Giammattei. Récemment, 7 personnes sont mortes dans un hôpital public à cause de la corruption. Donc la corruption tue. Il y a de nombreux défis à relever sans aucun doute et je suis tout à fait réaliste. Mais je veux aussi contribuer à partir de ma position d'artiste pour que les choses changent. Nous sommes nombreux à vouloir nous engager pour que cette nouvelle présidence soit une réussite. Et pour exiger que nos droits et notre dignité soient respectés.
Para poder exigir que se garantice el respeto a nuestros derechos y a nuestra dignidad.
Caminando van tantos pueblos en pie de lucha. noche están. Van por los caminos con su corazón retumbando.
Fuerte de dignidad.